Ce texte des Béatitudes est un beau texte. Je dirais surtout pour un mariage et surtout pour nous tous, parce qu'en effet, il y a 8 fois heureux, 8 fois heureux, et c'est bien ce que nous souhaitons pour nous tous, pour nos proches, pour ceux que nous aimons, c'est d'être heureux. Or, je crois justement que la religion, la foi, c'est un chemin de bonheur. Et ça, c'est bien de le dire, parce que ce texte des Béatitudes, d'après l'évangile de Matthieu, ce sont les premières paroles de Jésus. C'est-à-dire, c'est par cela que Jésus ouvre son enseignement. Il dira plein d'autres choses après, mais c'est par cela qu'il commence son enseignement public. Et donc, il commence son enseignement en disant 8 fois « heureux ». Heureux, 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 heureux et heureux. J'espère qu'il y en avait 8, je ne suis pas très sûr. En tout cas, c'est 8 fois heureux. Alors ça déjà, je n'ai pas besoin de lire toute la suite pour comprendre que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et peut-être à l'encontre d'ailleurs de ce que parfois certains chrétiens en ont fait. Et je dirais dans l'histoire du christianisme, que ce soit au Moyen-Âge ou même Calvin ou d'autres, parfois on a dit la religion, il faut se priver de ce que l'on aime, il faut s'astreindre à des disciplines effroyables, voire même se rendre malheureux pour être sauvé. Certains ont même dit que ce qui nous sauvait le plus c'était nos souffrances et que nos souffrances nous accumulaient des sortes de mérites. Eh bien tout cela... On dit ce qu'on veut, hein. En religion, c'est la liberté totale, mais en tout cas, Jésus ne commence pas comme ça. Il commence par le bonheur. Et donc, effectivement, l'Évangile, ce n'est pas la tristesse, ce ne sont pas les privations, ce n'est pas l'austérité, mais c'est le bonheur. Alors, vous me direz, heureux, tout le monde veut l'être, ce n'est pas tellement la question, c'est assez général, mais la question, c'est de savoir comment on envisage de l'être. C'est-à-dire, je crois que Jésus propose un chemin de bonheur qui, lui, est particulièrement original. Alors donc, vous disais-je, il va donner 8 béatitudes, 8 fois heureux. Dans ces 8 béatitudes, il y en a 4 qui nous plaisent assez bien. 4 béatitudes positives, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont doux ou humbles, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui sont pleins d'amour. Et ces 4 béatitudes... ne pose pas de gros problèmes, disons que c'est le chemin de l'Évangile, voilà. Le chemin de l'Évangile, c'est ça, c'est la paix, c'est la douceur, c'est l'humilité, c'est la pureté de cœur, c'est-à-dire pas toujours calculer des choses tordues, et puis c'est l'amour et la miséricorde. Eh bien écoutez, vous savez, il est de bon ton en ce moment de dire beaucoup de mal des religions, de dire que les religions sont forcément des facteurs de trouble. Je ne dis pas qu'elles ne l'ont pas été ou qu'elles ne puissent pas l'être. Mais en tout cas, moi, quand je lis le début de l'enseignement du Christ et que l'on voit que la base de tout, c'est un chemin de bonheur et que le bonheur, ça passe par la paix, par la douceur, par l'humilité, la pureté de cœur et l'amour, eh ben, je n'ai pas honte de cette religion. Et je maintiens qu'effectivement, c'est ça le chemin du bonheur. Et peut-être que même par-delà les questions de guerre de religion, dans nos vies, nous sommes sans arrêt attirés vers autre chose que la douceur, que l'humilité, que l'amour ou la paix. Parce que le monde lui-même, même indépendamment de terrorisme, le monde lui-même, dans notre vie quotidienne, nous pousse à autre chose qu'à la paix, qu'à la douceur, qu'à l'humilité, qu'à la pureté de cœur et à l'amour. Donc oui, rappelons-nous, effectivement, le chemin de l'Évangile, c'est cela. Et ces 4 valeurs sont ce que nous devons chercher avant tout pour nous et ce que nous sommes invités à vivre les uns avec les autres. Et puis, comme l'Évangile n'est jamais trop simple, Matthieu a mélangé ces 4 béatitudes avec 4 autres qui sont plus compliquées parce qu'elles sont un peu négatives. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif, heureux les pauvres. Alors, c'est compliqué, évidemment, je ne pense pas qu'il faille interpréter cela en disant qu'il faut nécessairement avoir faim, avoir pauvre, pour devenir heureux. Parce que d'abord, je connais plein de gens qui ont faim et qui sont pauvres et qui ne sont pas heureux. Et puis par ailleurs, je ne crois pas que... Je connais aussi des gens rassasiés qui sont heureux, donc évidemment, ça ne peut pas être ça. Mais si vous regardez bien comment Matthieu dit ces choses-là, à chaque fois, il montre qu'il ne s'agit pas d'un état matériel, mais d'une disposition spirituelle. Il ne dit pas, comme le dit l'évangile de Luc, heureux ceux qui ont faim, mais il dit ceux qui ont faim et rajoute de justice. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la question d'avoir à manger ou pas, mais c'est d'avoir, d'avoir un désir de justice et de paix. Il ne dit pas heureux ceux qui sont pauvres, comme si le montant de son compte en banque était un critère pour être heureux ou pas, mais il va dire ceux qui sont pauvres spirituellement, voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas l'état matériel qui compte, mais la disposition mentale. Et là, je crois que Matthieu nous dit autre chose d'extrêmement important, c'est que pour être heureux, il faut désirer certaines choses, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une dynamique dans notre vie. Il faut avoir des aspirations, des projets, des désirs et être tendu vers quelque chose. Et ça, ça n'est pas évident. Parce que nous, notre tentation à nous, c'est plutôt de se dire que notre bonheur, il va dépendre de ce que nous avons. Et en fait, le bonheur ne dépend pas tellement de ce que nous avons, mais il dépend de ce vers quoi nous allons. C'est une conception toute différente probablement de la nôtre. Et ça, c'est un petit secret qui se trouve dans le texte, que les vieux routards des églises ou de la théologie chrétienne connaissent, mais comme on fait venir des jeunes, j'espère que certains ne le savent pas encore, je demande pardon aux autres, c'est que le mot « heureux » en hébreu vient d'un verbe « ashré » qui veut dire « être en marche », « être debout et en marche », « être en route ». Et donc on voit que pour la Bible, le bonheur n'est pas une notion statique, mais c'est une notion dynamique. Heureux dans la Bible, ça veut dire être en marche. Et donc, être heureux, c'est être en mouvement. Et là, vous disais-je, c'est très différent de notre conception du bonheur. Parce que nous avons tendance à considérer que le bonheur est un état. Et quand on est heureux, on se dit « pourvu que ça dure ». En fait, dans la Bible, le bonheur n'est pas un état, mais c'est une dynamique, c'est-à-dire c'est un mouvement. Nous avons tendance à penser qu'être heureux, c'est avoir plein de choses, alors que pour la Bible, être heureux, c'est plutôt être tendu vers quelque chose, et je dirais être dans le désir de quelque chose, être en marche vers ce que l'on n'a pas encore. Et vous disais-je, évidemment pas de cette façon que je fais aujourd'hui, mais je prêche souvent ce genre de choses pour des situations de mariage, et je trouve que c'est particulièrement pertinent, parce que finalement un mariage, c'est un moment très angoissant, parce qu'on voit ces gens qui sont heureux et qui s'aiment, et en fait tout le monde se dit « pourvu que ça dure ». C'est-à-dire qu'on se dit finalement ils sont arrivés à une sorte de sommet, et ça ne peut que finalement que se dégrader. Alors, peut-être que vous n'êtes pas en train de vous marier, mais je dirais, dans votre vie, vous pouvez vous dire la même chose. En ce moment, je suis jeune, pourvu que ça dure, mais on sait que ça ne durera pas, donc j'aurai des rhumatismes, j'aurai des maladies, des cancers, des machins, tout ça. Et donc, nous avons une conception du bonheur fondamentalement angoissante. C'est-à-dire, le bonheur, c'est une sorte de forteresse assiégée sans cesse par toute chose. Et je pense à cela à chaque fois que je vois des enfants faire des châteaux de sable sur la plage. Et le bonheur que nous concevons dans notre société, il est comme ça. C'est un château de sable. Et puis la mer arrive, et chaque fois on se dit, le château va résister, et le château ne résiste pas. Voilà. C'est-à-dire que, justement, il faut comprendre que le bonheur n'est pas un état où on se dit, pourvu que ça dure. Mais le bonheur, c'est un mouvement. Et quand on est dans le mouvement, eh bien, on avance. Et donc le bonheur, ce n'est pas de faire un château de sable, mais le bonheur, c'est les enfants qui courent après les vagues. Et même si la vague monte, l'enfant court et parfois il se mouille les pieds. Mais quel bonheur d'échapper aux vagues. Et plus les vagues montent, plus je cours et j'avance. Et donc le bonheur de la Bible, c'est justement une marche permanente, un cheminement permanent. Et c'est là où j'explique aux mariés que finalement, le bonheur, ce n'est pas tellement l'état dans lequel ils sont là, mais que l'état dans lequel ils sont, c'est un point de départ vers un cheminement ensemble. Et si ensemble ils avancent, si ensemble ils sont dans une dynamique, dans une aspiration vers quelque chose, eh bien ils découvriront ce que c'est que le bonheur. Parce que le bonheur, c'est de construire ensemble. Le bonheur, c'est d'avoir des projets. Le bonheur, c'est d'avancer, c'est d'inventer, de recréer sans cesse. Et effectivement, d'être en marche. Et ça, c'est je crois que ça change tout, finalement. Ça change toute la conception de la vie. Donc oui, heureux celui qui a faim et soif de justice. C'est pas heureux celui à qui on fait justice, celui qui a faim et soif de justice. Il dit heureux celui qui est pauvre en esprit, c'est-à-dire celui qui sait qu'il n'a pas tout et qu'il a besoin d'apprendre, qu'il a besoin d'être aimé, qu'il a besoin de découvrir, qu'il a besoin de créer quelque chose de neuf. Heureux celui qui a une dynamique dans sa vie et non pas celui qui s'assied sur son tas d'or comme le financier du savetier, du financier qui s'assied sur son tas en regardant partout si personne n'est en train de menacer son trésor. Ça, c'est effroyable, c'est angoissant. Mais il y a toujours, quelle que soit la situation, quelque chose à créer. Et ça, je le vois, moi, qui accompagne des gens de toute situation, et des gens heureux et aussi des gens malheureux. Alors ça, je ne le dis pas au mariage pour ne pas plomber l'ambiance, mais je vois des gens, oui, qui sont atteints de graves maladies, je vois des gens qui sont fortement handicapés, je vois des gens qui sont dans un état de vieillesse très avancé, et je leur dis, et je me rends compte que ceux qui sont heureux, ce sont ceux qui arrivent encore à construire quelque chose, à inventer une nouvelle manière d'être, c'est ça. Et chaque fois, la vie nous impose des changements, et celui qui est heureux, c'est celui qui arrive à avancer avec ce changement. Alors pour le mariage, c'est pareil, finalement d'arriver à avancer avec l'autre, à cheminer, et d'être sans arrêt dans une marche ensemble, parce que le bonheur, il n'est pas quelque chose d'un état que l'on voudrait sauvegarder. Il n'est pas, comme on le dit parfois aussi, du passé dont on essaye de sauvegarder des lambeaux. Mais le bonheur, il n'est pas derrière, il est devant. Alors ça, c'est peut-être encore plus important que les quatre premières béatitudes qui étaient un peu simples. Parce que ces béatitudes négatives qui montrent, enfin, qui ne sont pas si négatives d'ailleurs, mais qui montrent que le bonheur, c'est d'être dans l'aspiration, dans la soif, dans le désir, dans la visée. Et bien finalement, je crois que c'est quelque chose qu'ont voulu dire les réformateurs ou même les épîtres de Paul quand il nous dit que nous sommes sauvés par la foi. Alors là, excusez-moi, je reprends du patois de Canaan, c'est-à-dire de la langue de bois religieuse. On est sauvés par la foi. On le répète, mais ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire une chose très simple, que ce qui donne sens à notre vie, ce qui nous permet d'accomplir notre existence, ce qui nous complète d'être bien, ce qui nous permet d'être bien et d'être heureux, ce n'est pas ce que nous avons, mais c'est notre foi. Alors là encore, la foi, il faut que j'explique ce que c'est, c'est-à-dire que la foi, dans la Bible en tout cas, ça n'est pas le sentiment de la présence de Dieu, ça n'est pas l'émotion religieuse. Ça, on l'a plus ou moins, suivant l'éducation, la culture, suivant la nature de chacun. Mais dans la Bible, la foi, c'est la conviction. C'est ce en quoi l'on croit et que l'on n'a pas encore. C'est-à-dire, la foi, c'est la visée de son existence. C'est ce vers quoi on tend, si vous voulez. C'est ça, la foi. Et donc, si on me demande si j'ai la foi, ce n'est pas de se dire « crois-tu vraiment que Dieu existe en faisant toute chose ?» Ça n'est pas la question. Oui, j'ai la foi, parce que je crois dans l'amour, je crois dans la fraternité, je crois dans la bonté, dans la douceur et dans la paix. Alors, je ne l'ai pas en plénitude, et ce monde ne l'a pas, mais j'y crois. Je crois que c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est juste, c'est ça qui est bon, et c'est vers ça que je veux tendre. C'est ça, vers ça que je veux courir. Et moi, je sais que je suis un pauvre spirituellement, parce que je suis un mendiant d'amour, un mendiant de paix, un mendiant de joie et de bonheur. Et j'ai faim et soif d'amour, de paix, de joie et de bonheur. Et donc, c'est ça la foi, vous disais-je. La foi, c'est cette visée de l'existence. Et finalement, les théologiens ont raison. Ce qui sauve notre vie, ce n'est pas ce qui s'y trouve aujourd'hui, c'est ce vers quoi elle s'oriente, ce vers quoi elle est tendue, ce vers quoi elle est orientée. Et donc c'est ça finalement, c'est, vous disais-je, la visée. Alors, c'est cette foi peut être une forme d'idéal, ça peut être les valeurs dans lesquelles on croit et vers lesquelles on veut aller. Et je pense effectivement que c'est ça qui sauve notre vie. Et donc, heureux celui qui a une foi. Alors là, j'aurais tendance, moi, à ouvrir très largement. Je pense que la foi chrétienne est un vrai chemin de bonheur parce que, effectivement, les quatre premières béatitudes jalonnent bien la chose. Hein. C'est l'amour, la paix, la douceur, l'humilité et la pureté de cœur. Et ces idéaux-là, si vous courez après ça, c'est une merveille. Voilà. Mais d'une façon générale, je dirais heureux celui qui croit en quelque chose, parce que la pire chose qui puisse nous arriver, c'est de ne croire en rien. La pire chose qui puisse arriver, c'est de n'avoir aucune visée et d'être planté là comme une fleur dans une jardinière qui attend qu'on l'arrose. Si vous voulez, ça, ce n'est pas l'idéal du chrétien. L'idéal du chrétien, c'est celui qui sort de sa jardinière et qui va courir vers la source d'eau. Et donc heureux celui qui court quelque part et qui avance. Et finalement, que vous soyez un bon chrétien ou un mauvais chrétien, que vous soyez même chrétien, protestant, catholique, juif, orthodoxe, franc-maçon ou baï ou je ne sais quoi, si vous avez quelque chose vers lequel vous courez, eh bien déjà, vous pouvez comprendre ce que c'est que le bonheur et la réalisation de sa vie. Alors heureux celui qui a une foi et qui sait où il va et qui du coup ne dépend pas, je dirais, des événements qu'il subit et qui ne dépend pas de ce qui lui arrive, mais qui devient l'acteur de sa propre vie, parce que son bonheur dépend de lui en tant que sujet en marche, et non pas de lui en tant que réceptacle de choses agréables ou pas qu'il recevrait. Et donc Paul a raison quand il dit justement dans ce texte de 1 Corinthiens, il dit que dans ce monde tout passe, et que tout est passager, mais qu'il n'y a que trois choses qui demeurent éternellement. La foi, l'espérance et l'amour. Et il dit que c'est ça l'essentiel, le fondamental de toute vie. La foi, j'en ai parlé largement, c'est la visée qui donne consistance à la vie. Donc oui, Paul a raison, tout passe dans notre vie, mais la foi, c'est la chose la plus solide de notre existence. Et puis, dit-il, l'espérance, alors l'espérance, peut-être que c'est d'y croire dans cette foi, c'est-à-dire de mettre sa confiance là-dedans, par-delà les choses visibles. Donc l'espérance, c'est le passage d'une foi intellectuelle, où on dit « oui, oui, c'est très bien, l'amour et la paix, c'est formidable, c'est ça ». L'espérance, c'est de dire « eh bien moi, je me jette là-dedans, et je dis « c'est en ça que je crois, et c'est, je ne veux dépendre que de ça ». C'est-à-dire l'espérance, c'est vraiment de se mettre pleinement dans ces choses-là, de mettre sa confiance dans ce en quoi l'on croit, pour que cette croyance ne soit pas qu'une sorte de philosophie d'existence, mais ce soit vraiment ce en quoi je m'engage. Et puis l'amour, bien sûr, l'amour est éternel. Enfin, si là encore on ne parle pas du sentiment amoureux, qui est évidemment passager, évanescent, et je déplore que je dirais que beaucoup de mariés prennent ce texte sur l'amour en pensant que c'est ce qui parle d'eux. J'aimerais, mais ça n'est pas évident. L'amour de Paul n'est pas la raison pour laquelle les mariés sont là à se marier. C'est pas l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Roméo, je t'aime, et toi, Juliette, m'aimes-tu ? Oh oui, je t'aime pour l'amour, pour la vie, etc. Ça, c'est pour les romans, ça. Hein ? L'amour, en tant que sentiment, n'est absolument pas éternel, sauf s'il arrive à être construit sur une autre dimension, qui est justement cet amour évangélique, cet amour chrétien, qui est non pas un sentiment qui peut évoluer, mais une démarche vis-à-vis de l'autre, de s'ouvrir à l'autre, d'accueillir l'autre, de recevoir l'autre, de respecter l'autre et de le considérer comme un vis-à-vis, c'est-à-dire comme un alter ego. Alors à ce moment-là, effectivement, on passe à autre chose. Et d'ailleurs, je dirais, l'amour de 1 Corinthiens 13, c'est pas seulement l'amour conjugal, puisqu'il faut aimer de cette manière même ses ennemis. On n'est pas obligé de faire l'amour avec ses ennemis, donc c'est tout à fait autre chose. Mais cette ouverture, cet accueil de l'autre, cette volonté de cheminer avec l'autre, en acceptant qu'il est aussi un sujet en marche, et non pas un objet pour me faire plaisir, dont j'espère qu'il ne se dégradera pas trop vite, mais quelqu'un avec qui je chemine. Ça, c'est merveilleux. Et effectivement, donc finalement, mes mariés ont raison de choisir ce texte. Parce que l'amour dont il est question n'est pas l'amour pour lequel ils sont venus là, se marier, mais c'est l'amour qui les aidera à construire ensemble quelque chose de durable. Et cet amour, c'est justement cela, c'est d'être en marche et de cheminer avec quelqu'un, ce qui suppose d'avoir une certaine visée commune et de savoir donner et de savoir recevoir. Et cette dynamique, eh bien cette dynamique, c'est celle du bonheur, justement. Cette dynamique, c'est celle du Dieu de l'Évangile. Et finalement, tout l'Évangile se résume là-dedans, dans ces béatitudes et dans ce rappel de Paul des trois choses fondamentales que nous ne devons pas oublier dans notre vie, de la foi, de l'espérance et de l'amour. Parce que, voyez-vous, ce Dieu de l'Évangile et ce Dieu dans lequel je crois, ce n'est pas un concept philosophique, ce n'est pas une idée moyenâgeuse, ce n'est pas, un Dieu que l'on pourrait représenter comme un vieillard barbu ou comme une sorte d'assassin avec un triangle sur la tête. Ce Dieu dans lequel je crois, c'est un Dieu vivant, c'est-à-dire un Dieu insaisissable, un Dieu en marche, un Dieu qui est justement un Dieu qui lui-même est amour, joie, paix, pardon, espérance, bonheur, lumière et amour. Ce Dieu de l'Évangile, c'est ce Dieu qui est finalement entièrement dans les béatitudes, qui me comble de joie, de paix et de tendresse, et qui en même temps met dans mon cœur une sorte de désir et d'aspiration d'autre chose pour ce monde, d'autre chose pour moi, et d'autre chose pour ceux que j'aime. Et c'est ça que, finalement, que nous vous souhaitons à chacun, c'est ça que nous souhaitons pour chacun, et c'est parce que tout ce que nous sommes en mesure de désirer pour nous, c'est ce que nous sommes invités à donner aussi aux autres, et c'est cela que l'on peut faire si on s'ouvre à cette dimension. Donc oui, effectivement, dans ces deux textes que nous avons là, il y a les deux choses fondamentales de notre vie, que sont le bonheur et l'amour, mais ces deux, sont sujets de tellement de contresens que c'est extrêmement compliqué. Donc il faut bien regarder dans les textes pour comprendre, mais effectivement, la chose la plus fondamentale de notre vie, c'est le bonheur et l'amour. Ce bonheur en marche, qui est une quête, cet amour de l'autre, qui est aussi une marche et une quête. Et quand on aime en cherchant et en avançant, on trouve le bonheur. Et quand on chemine dans le bonheur, on apprend aussi à aimer, parce que l'autre aussi n'est jamais là où on pense qu'il est. Cet amour, il est entre nous, bien sûr, et aussi pour ce Dieu insaisissable qui lui-même ne nous laisse pas toujours en repos, mais nous invite en permanence à être en marche. Et si nous marchons avec notre Dieu, alors nous pouvons traverser la mer Rouge, on peut traverser les déserts, on peut cheminer dans des endroits stériles, et on a tout ce qu'il nous manque, la manne qui tombe, l'écaille rôtie qui tombe toute faite dans notre assiette, et on peut traverser le Jourdain, finalement, le fleuve, pour arriver dans la terre promise, qui est ce vers quoi nous tendons notre vie, pour notre plus grand bonheur, et pour le plus grand bonheur de tous ceux qui seront sur notre route, et que nous sommes invités à aimer comme Dieu nous aime. Amen.